historiquement vôtre.
Comment deux êtres si complices et par ailleurs dotés d'un si bon goût,
l'amour a tout emporté,
peuvent-ils se déchirer autour d'un quiz de culture G, jouant ensemble à Burn to be Alive? Première question, elle est pour vous Stéphane. Partons pour New York, ça fait longtemps.
Oui.
En 1930 a été construit l'American International Building, 290 mètres avec son antenne. Il a été l'édifice le plus haut du quartier, puis il n'a plus été l'édifice le plus haut, puis de nouveau, puis plus. Vrai ou faux? J'adore ce regard. Pour résumer, c'est un édifice, l'American International Building, qui a été le plus haut, puis ensuite il a été battu, puis il est redevenu de nouveau le plus haut, puis il a re-été battu.
Comment... Dire, c'est donc qu'on a construit une autre tour qui était plus grande, puis qu'on a détruit, puis, ou qui a été détruite.
Voilà, puis... voilà un raisonnement.
Elle aurait été détruite?
Bah, si vous voulez, à part les fameuses tours du 11 septembre...
Ah oui, parce que tout dépend de l'époque à laquelle a été construit ce building-là. Oui.
Partons pour New York en 1930.
Ah,
oui, en 1930 pour l'American International Building.
1930. Et l'Empire State Building, ça a été construit en quelle année?
Building, c'est plus haut ou c'est plus haut?
Bah, je ne peux pas vous donner de tels indices, Stéphane. Je vous pose une question.
Ça paraît bizarre, Stéphane, parce que ça voudrait dire que celui qui est devenu plus haut à un moment aurait été détruit. Ou alors ça veut dire que sur ce building-là, ils auraient rajouté soit des étages, soit une flèche, soit quelque chose pour faire la compète. Vous savez comment dans cette ville de Toscane où il fallait avoir la tour la plus haute.
Je vous relis la question une fois pour essayer de ne pas vous piéger.
Il y a un piège.
C'est toujours possible avec moi. Partons pour New York.
On est sur des charbons ardents.
En 1930 a été construit l'American International Building. 290 mètres avec son antenne. Il a été l'édifice le plus haut du quartier. Puis il n'a plus été l'édifice le plus haut du quartier. Puis de nouveau plus l'édifice le plus haut du quartier.
Je dirais oui.
Oui, c'est possible du coup.
Vous avez...
Je deviens beaucoup trop conciliant avec Stéphane, je le mets sur la bonne voie. En 1930, c'est la course au gratte-ciel à Manhattan. L'American International Building est le plus haut, puis plus. Les Twin Towers sont plus hautes.
Ah oui.
Et puis en 2001, et pour cause, le building redevient le plus haut du quartier. Et puis dans ce même quartier, la Freedom Tower, achevée en 2014, est de nouveau la plus haute. Vous avez su déjouer le piège, Stéphane, c'est tout à votre honneur. Et au mien. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Durant la première guerre, les animaux mascottes étaient courantes. La première brigade d'infanterie sud-africaine avait même dans ses rangs Jackie le babouin. Officiellement soldat, il avait un uniforme et des rations. Une fois la guerre achevée, il a reçu une pension et un formulaire d'emploi civil pour les soldats démobilisés. Vrai ou faux? On parle donc d'une mascotte. Hein.
Oh, il y a tellement d'informations là-dedans. Qu'il y a eu des mascottes... Oui, ça, bien sûr. Beaucoup de chiens, sans doute des chats, peut-être des rats, sans doute aussi.
Il y a eu des chèvres.
Des pigeons, aussi. des chèvres mascottes.
Oui. Des brebis, oui, bien sûr, en Angleterre,
pas
c'est
des chevaux.
Ah, oui.
Des... oui, moi, ça, je crois volontiers. Alors, qu'il y a eu un singe, oui, why not? Mais alors qu'on l'ait pensionné à la fin de la guerre, après tout, vous avez bien parlé de Choupette qui a hérité de la fortune de Karl Lagerfeld. Et est-ce que des soldats reconnaissants envers leur babouin auraient pu obtenir une pension pour l'animal?
Vous savez, parfois c'est l'administration. Hein. S'il est enregistré sous un matricule, il reçoit sa pension.
Donc vous m'encouragez à dire oui, ce que je fais.
Vous avez gagné.
Un sans faute pour l'instant aujourd'hui dans le quiz. Oui, Jackie le babouin a même dû être amputé de la jambe en 1918 en Belgique. Pour s'anesthésier, il a bu du chloroforme. Jackie le babouin, en 1919, est retourné avec son maître Albert Marr dans sa ferme près de Pretoria. Victime du syndrome post-traumatique de la guerre, il est mort d'une crise cardiaque suite à un orage en 1921. Son maître lui est mort en 73 à 84 ans. Rest in peace, Jackie le babouin. C'est une belle histoire. Question numéro 3. Stéphane, elle est pour vous. Un cénotaphe est un cercueil américain. Comprenez qu'on peut l'ouvrir aux trois quarts pour voir le défunt. On peut dire que Abraham Lincoln a été exposé au public à la Maison Blanche en 1865 après son assassinat dans un cénotaphe. Vrai ou faux?
Non, alors un cénotaphe, c'est autre chose.
Oui.
Un cénotaphe, c'est un monument funéraire dans lequel il n'y a pas...
Qui est vide.
Qui est vide. Il n'y a pas de
Bien sûr. Les Suisses qui sont morts aux Tuileries sont dans des cénotaphes à la chapelle expiatoire de la rue d'Anjou.
Exactement. Richelieu, le fondateur, par exemple, il y a le cénotaphe à l'Académie française, mais il n'y est pas.
Alors Richelieu est à la chapelle de la Sorbonne, si je puis me permettre. Sa tête a été conservée dans un petit... Ah ça, évidemment, et désolé, mais je suis tellement experte sur ces trucs sordides, morbides. Voilà, donc ça...
Donc un cénotaphe, il n'y a pas de corps dans le cénotaphe.
Son auriculaire qui est à l'Académie.
Oui.
Richelieu.
Vous avez gagné.
Et toc.
Et sans hésitation, et j'octroie 2 points. Parce que là, on a eu la réponse. En plus, non seulement c'est faux, mais un cénotaphe est un cercueil vide. C'était ce que j'étais censé vous révéler. Vous étiez censé me dire « Oh non, pas possible !» Mais vous connaissiez déjà tout ça. Pourquoi ? Taphos, tombeau, kénos, vide. Quand Jean Moulin est entré au Panthéon, c'était un cénotaphe puisqu'il était vide. Seules les cendres sont au Panthéon. Et en plus, ce sont ces cendres présumées. Personne ne peut apporter la preuve formelle que ce sont vraiment les vraies cendres de Jean Moulin. 2 points pour Stéphane qui prend donc la main. Attention,
oh, donc,
attention.
Il y a de la vue là.
Mais vous aussi,
tout
vous pouvez marquer 2 points.
Tout se joue. Sur la question 4. Chauderlot de Laclos, le célèbre auteur du roman épistolaire Les Liaisons dangereuses, n'avait rien de Valmont. Il était, paraît-il, maigre et jaune à la conversation froide et méthodique. Ma question est la suivante. Est-ce que l'écrivain, Chauderlot de Laclos, a pu regarder Fort Boyard ? Je parle du vrai Fort, pas de l'émission télé avec le père Fouras.
Alors Chauderlot de Laclos, en effet, était militaire, il était soldat. Il a été essentiellement en garnison à Grenoble, et c'est à Grenoble qu'il a écrit Les Liaisons dangereuses. Il a rencontré Stendhal, qui à l'époque s'appelait Henri Brulard. Il s'est inspiré de personnages grenoblois.
Je vous interromps, Clémentine, pour vous dire que, vu le torrent d'informations que vous nous donnez là-dessus, vous aurez 2 points si vous apportez la bonne réponse.
Oui.
Je pense que
oui, il a pu voir le Fort Boyard. Je ne pense pas qu'il y soit forcément allé, parce qu'il a été en garnison tout à fait, dans des régions tout à fait différentes, me semble-t-il. Mais que le Fort Boyard ait déjà été édifié à l'époque, je pense. Je réponds oui.
Oui, mais vous répondez oui, mais si je peux me permettre, il pourrait y avoir un piège dans la question.
Ah, d'accord. Donc là, il veut qu'on fasse la question 5.
Non, mais elle a eu raison de répondre spontanément.
Aurait-il pu voir le Fort Boyard ? Boyard, c'est un fort du... Est-ce que c'est un fort du 19e ?
Mais non, bien sûr, c'est un fort du 19e. C'est un fort Napoléon III.
Fort Boyard, c'est Napoléon III. Bon, ben voilà, j'ignorais ça. Donc, il n'a pas pu voir le Fort Boyard. Donc, la réponse est non.
Vous avez gagné.
Merci Stéphane.
Vous avez... Et merci moi aussi, parce que tu partais pour dire oui. Donc non. Mais en revanche, Stéphane perd 6 points, puisque le Fort Boyard n'est pas un fort napoléonien. N'est pas un fort Napoléon III, pas du tout.
C'est un fort républicain, puisque c'est...
Le Fort Boyard.
On écoute.
Si je perds mes 6 points, alors là, je ne joue plus.
Chauderlot de Laclos est mort en 1803. Le fort a commencé à être construit en 1804, Stéphane.
Napoléon III.
Vous ne perdez
moi,
pas vos points.
Je pensais que c'était édifié au 18e.
6 points partout.
Qui a fait Fort Boyard autour de cette table, Stéphane?
Jamais.
Comment, vous n'avez jamais fait Fort Boyard?
Jamais, j'ai toujours refusé.
Mais pourquoi?
Parce qu'il y a des bêtes.
Ah oui, moi je comprends ça.
Ah,
c'est impossible. Les bêtes et les gros vers, là, manger des vers géants.
Vous cochez avant de faire l'émission, vous cochez une décharge médicale.
Non, mais ça, c'est pas vrai. Mais ils n'en tiennent pas du tout compte. Tous mes copains qui l'ont fait, ils m'ont dit attends, on n'en tient pas compte.
Ni les araignées, ni les serpents, ni les vers, ni les rats. J'ai le vertige.
Et vous n'allez pas sous l'eau.
Et je vais pas sous l'eau.
Donc vous ne pouvez rien faire.
Rien.
C'est un grand regret.
Je reste chez moi et
vous regardez les autres.
Distance, moi, je réponds aux questions du père Fouras. Je suis quand même pas mauvais. Mais de là, aller jeter dans le vide au milieu du fort.
Cette ultime question est digne du père Fouras. Question numéro 5 pour tous les deux. C'est la question de rapidité. On écoute bien les propositions. Charles Tellier est l'ancêtre de la conservation par le froid. En 1876, avec un Uruguayen, ils ont transporté pour la première fois de Rouen à Buenos Aires pendant 3 mois du bœuf dans un voilier spécialement conçu pour l'occasion. À l'arrivée, tout était comestible. Comment s'appelait le voilier ? 3 propositions. Le Friofria, le frigorifique, le Vivagel.
Le frigorifique.
Alors, nous avons le frigorifique à réponse et votre réponse, c'est pas le frigorifique. Le frigo-gigim. Étonnamment, la bonne réponse n'est pas le frigo-gigim, mais le frigo frigorifique. Mais il a tenté d'arracher la victoire en se plantant encore. C'est terrible, c'est une humiliation aujourd'hui pour Stéphane pour le quiz.
Oh non,
il a tenté le tout pour le tout. Il a perdu. Victoire de Clémentine Portier-Caldelac.
Bravo Clémentine. Cela dit, on a appris à... Parce que vous avez l'air comme ça très savant avec vos fiches. Mais je vous ai quand même appris ce qu'était un cénotaphe.
Oui, c'était très intéressant. Et vous voyez Chauderlot de Laclos qui écrit un truc torride, ben c'est un soldat, c'est un militaire. Effectivement, c'est un homme relativement austère.
Et
c'est un héros de Valmy à côté de ça, bien sûr.
Mais ce n'est pas de Valmy,
c'était
supplémentaires.
Pas quelqu'un, c'était un
ce serait des points posthumes, là.
Attention, Stéphane, attention. Je peux vous retirer certaines victoires que vous avez eues dans le quiz pour le compte final. Si, à la fin de la saison, on aura le grand vainqueur. Il faudrait vous rattraper. Alors, je vous raconte l'histoire. Peu doué pour les affaires, il n'a jamais fait fortune, hein, ce Charles Tellier, mais il a non seulement été l'un des précurseurs d'une technique industrielle qui sera universelle au XXe siècle, et en plus, il a été cité dans un quiz historiquement vôtre, et ça, pour lui, pour tous ses descendants, c'est évidemment la classe. Il nous écoute.
On les salue.